Olympique, une médaille en or pour la judoka française Clarisse Agbenenyou. Julien Froment dans un instant. Les chiffres du chômage encore en recul au deuxième trimestre. Analyse à suivre dans ce journal. Le pass sanitaire, véritable frein pour les lieux de culture. Entrée des cinémas en berne et détresse des parcs de loisirs. Coup de fil à Arnaud Bennett, le président du syndicat national des espaces de loisirs. Et puis attention, si vous avez une maison secondaire, votre taxe d'habitation pourrait grimper jusqu'à 60% par endroit. L'invité d'Europe Midi, le journaliste Paul Sugy, il publie l'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes aux éditions Talendier.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et de deux médailles d'or pour la France il y a trois quarts d'heure à peine. La deuxième médaille a été apportée par la judoka française Clarisse Agbenenyou, Julien Froment.
Oui, et l'image qu'on retiendra, c'est Clarisse Agbenenyou au sol dans les bras de son adversaire, des larmes de joie après 5 longues années à ruminer et à attendre ce moment. La Française de 28 ans tient enfin sa revanche face à sa meilleure ennemie, la Slovène Tristan Jack. C'est elle qui l'avait privée de l'or olympique en 2016 à Rio, mais cette fois-ci Clarisse Agbenenyou n'a rien laissé au hasard. Un combat maîtrisé du début à la fin et un titre acquis dans les prolongations, le Golden Score à la 34e seconde, très précisément un Wahazari, un balayage latéral pour l'éternité, synonyme d'or olympique. Clarisse Agbenenyou émue et soulagée à l'issue du combat.
Enfin, c'était la plus dure journée mentalement, mais finalement c'était la plus simple. J'ai cette médaille enfin. J'y crois pas. J'étais en mission aller chercher cette médaille d'or. Ça n'a pas été simple. Mais franchement, j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots.
Une journée difficile à gérer car il y avait beaucoup de pression pour la porte-drapeau de la délégation française, mais la quintuple championne du monde et d'Europe a tenu son rang. Elle apporte une 6e médaille au bleu, la 2e en or de ces Jeux Olympiques après l'escrimeur Romain Canon.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1, et bien sûr nous ferons un point complet dès 13h avec Simon Rubin dans notre rendez-vous Club Tokyo tous les jours. C'est l'autre information de cette mi-journée, les chiffres du chômage au deuxième trimestre. Ils viennent d'être communiqués il y a une demi-heure. Et nouvelle baisse, Emmanuel Dutheil.
Oui, on peut même parler d'une forte baisse hein, si on ne regarde que les demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé sur le trimestre écoulé. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la catégorie A. Baisse de 1,3%. La baisse est notamment forte chez les plus jeunes. Si on ne regarde que le mois de juin, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les demandeurs d'emploi jeunes sont plus proches du niveau de chômage d'avant-crise que les autres catégories de la population. Alors, il y a quand même malgré tout toujours plus de 200 000 chômeurs en plus hein, depuis le début de cette crise sanitaire. Alors cette fois, je vous propose de regarder tous les demandeurs d'emploi et donc ceux notamment qui ont eu une activité également très réduite ces derniers mois. Là, la baisse sur le trimestre écoulé est plus faible. Elle est quand même d'un demi-point. Avec 5 984 000 chômeurs, on passe sous le seuil très symbolique des 6 millions. Généralement, on considère que cette mesure est plus représentative de la tendance. Ce qui est sûr, c'est que la vague de faillite et l'explosion du nombre de demandeurs d'emploi redoutés au début de la crise ne se sont pas produites, hein, grâce bien évidemment au gigantesque plan d'aide. Reste à savoir ce que donnera la reprise maintenant avec les nouvelles mesures mises en place en raison de l'envolée du variant Delta.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe. La situation sanitaire en France à présent, toutes les régions enregistrent désormais un taux d'incidence supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 7 000 personnes sont à l'hôpital, 952 patients sont en réanimation. Et dans ce contexte, vous l'avez peut-être remarqué hein, près de chez vous, il y a beaucoup de monde devant les pharmacies afin de se faire faire un test antigénique. C'est bien sûr dû à l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Et ceux qui font la queue attendent soit d'être vaccinés, soit ils refusent la vaccination. Mais tous ont besoin d'un test négatif de moins de 48 heures pour continuer à fréquenter certains lieux. Reportage à Strasbourg, Mélina Fachin.
Le cabanon installé devant la pharmacie de la gare à Strasbourg ne désemplit pas. Il y a la queue toute la journée pour faire un test antigénique. Lisa, la pharmacienne.
Alors oui, depuis mercredi, l'entrée en vigueur du pass sanitaire, on a à peu près doublé le nombre de tests qu'on faisait par jour. On est sur une centaine de tests, ça occupe beaucoup nos journées.
Maxence, par exemple, qui n'est pas encore vacciné, a besoin d'un pass sanitaire pour accéder à sa salle de sport.
J'ai ma première dose aujourd'hui, ma seconde dose le 16 août. Et après, il faut attendre encore 7 jours pour avoir le pass sanitaire. En attendant, test antigénique, voilà. Et on fera avec.
Pour Akilas, au contraire, hors de question de se faire vacciner, il est prêt, dit-il, à refaire autant de tests qu'il le faudra.
Je préfère faire un test antigénique, ça me permet de préserver mon organisme qui n'a pas besoin de vaccin.
Vous êtes prêt à venir faire des tests très régulièrement ?
Toute la vie, peu importe le prix, même s'il faut le faire à 1 000 euros par test, je le ferai.
Et même si cela signifie qu'il devra revenir ici, à la pharmacie, à chaque fois qu'il veut aller au restaurant ou au cinéma. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Voilà, le pass sanitaire obligatoire donc depuis mercredi dernier. Et pour certains, eh bien, c'est rédhibitoire. Hein. Les clients désertent les salles de cinéma, mais également les parcs d'attractions. Bonjour Arnaud Bennett.
Bonjour.
Vous êtes le président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions. Vous dirigez vous-même le parc zoologique du Pal en Auvergne. Vous constatez que les clients fuient les parcs parce que le pass sanitaire, c'est trop compliqué.
Bien évidemment, parce que voilà, les tendances aujourd'hui sont entre moins 15 et moins 50% suivant les sites. Évidemment, ce pass sanitaire, nous ne sommes pas forcément opposés. Nous sommes bien évidemment pour la vaccination. Mmh. Ce que nous contestons simplement, c'est cette mise en place précipitée au 21 juillet, dans des sites qui sont par ailleurs souvent des sites d'extérieur, totalement sécurisés avec des protocoles qui ont démontré leur efficacité en 2020. Voilà, et avec des produits qui se consomment de manière impulsive, c'est-à-dire que les gens prennent la décision le matin ou la veille pour venir, et on comprend bien que dans ce contexte, la mise en place du pass sanitaire à partir du 21 juillet dans nos sites n'a pas favorisé particulièrement la vaccination, qui de toute façon, compte tenu des 8 semaines nécessaires à une démarche vaccinale, est engagée et doit s'engager pour tous les citoyens qui veulent être libres au mois de septembre. Mais par contre, elle contrarie énormément les visites des parcs aujourd'hui, avec des gens qui ne voulant pas prévoir leur visite, ne viennent pas tout simplement. Ceux qui viennent sont ravis de passer une bonne journée. Par contre, beaucoup ne viennent pas et beaucoup de sites sont dans une détresse et une situation économique très compliquée.
Et vous vous faites insulter parfois par le public également. Hein.
Alors on se fait effectivement insulter, on reçoit des messages très fleuris, nous disant qu'on est des collabos, que le pass sanitaire c'est un scandale, que la vaccination c'est un scandale. Mais bon, ça c'est pas très grave, nous sommes pour la vaccination, nous ne sommes pas contre ce pass, c'est plus la date du 21 juillet qui nous posait problème. Dans le même temps, si vous voulez, beaucoup de gens arrivent évidemment, n'ont pas compris qu'il fallait un test 48 heures, etc. Ils arrivent avec des tests qui ont 3 jours, 72 heures. Enfin, il y a plein de situations où les familles arrivent et n'étant pas en règle. Certains parcs ont essayé de mettre en place des tests antigéniques sur les parkings. Alors, ça demande déjà d'être un assez gros parc pour pouvoir avoir suffisamment de volume.
Bien sûr.
Et malheureusement, les politiques parisiens n'ont pas pensé à changer le décret du 1er juin qui autorise cette mesure et sa prise en charge par l'assurance maladie pour les discothèques et uniquement pour les discothèques. Donc, nous sommes totalement délaissés et vraiment désespérés.
Pour certains parcs, j'imagine que c'est la grosse détresse. Les frais fixes restent bien sûr les mêmes. Il faut bien sûr payer les salaires des employés.
Bien sûr, cette détresse, elle s'explique par le fait que juillet-août représente 70 à 80% du chiffre d'affaires de l'année. On imagine bien que là, il s'agit même plus de savoir si les gens vont pouvoir payer les charges fixes pendant la saison. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer après la fermeture saisonnière qui intervient souvent en fin septembre ou pour des parcs qui sont même ouverts toute l'année, mais avec des fréquentations très, très, très faibles à partir de septembre. C'est tout ça, tous ces problèmes qu'il faut se poser, qu'on aurait dû se poser avant, sachant que tout ça, encore une fois, n'accélère en rien la campagne de vaccination, puisque 8 semaines nécessaires pour être vacciné. Donc, bien évidemment, pour une mise en place d'un pass sanitaire début septembre, il aurait de toute façon fallu que les gens s'engagent tout de suite dans cette démarche vaccinale.
Arnaud Bennett, le président du syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions, ce midi sur Europe 1. Merci à vous.
Merci.
On vient de l'entendre, hein, des insultes pour ceux qui ne font qu'appliquer les mesures gouvernementales. Et puis, il y a ces cas de harcèlement. Un médecin réanimateur a déposé plainte hier pour harcèlement en ligne à Amiens. Dans une vidéo publiée sur Facebook, le docteur Michel Slama avait incité les internautes à se faire vacciner, seul moyen de lutter contre le Covid, Marion Dubreuil.
Oui, depuis le début de la crise du Covid, le professeur Michel Slama a pris l'habitude de commenter l'activité de son service de réanimation au CHU d'Amiens sur les réseaux sociaux.
Bonjour à tous, ça faisait longtemps.
Il y a 10 jours, il a posté cette vidéo sur Facebook.
Là, nous venons d'admettre les premiers patients qui ont un Covid sévère avec le variant Delta, des patients qui étaient non vaccinés. Donc vraiment, je pousse tout le monde à aller se faire vacciner.
C'est très rapidement, il découvre des centaines de messages haineux en commentaire.
Me traitant de nazi, le pire a été qu'ils aient posté une photo de moi qu'ils ont trouvée sur Internet avec une croix gammée sur le front.
Michel Slama a signalé ces messages à Facebook sans succès. Il a finalement décidé de déposer plainte pour harcèlement en ligne. C'est un délit passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Jamais j'avais eu des incitations aussi graves à la violence vis-à-vis de moi et secondairement contre la vaccination.
Le docteur Slama entend bien continuer à informer sur les réseaux sociaux. Il a publié hier une nouvelle vidéo sur la vie de son service en dehors de toute polémique.
Marion Dubreuil du service Police-Justice d'Europe 1.
Thierry Dagiral vous informe sur Europe 1.
1h20, troisième jour de la visite d'Emmanuel Macron en Polynésie. Le président s'est rendu dans l'archipel des Tuamotu sur l'atoll de Maini. Le chef de l'État a visité le futur site d'un abri anticyclonique. Il a parlé aussi réchauffement climatique. Le reportage sur place de notre envoyée spéciale, Claudia Bertram.
Un paradis qui peut se transformer en enfer, ce sont les mots du maire de Mani, John Drolet.
Nous sommes vulnérables et impuissants face au déchaînement des éléments. Dans le pire des scénarios, nos îles basses doivent affronter des vagues pouvant atteindre 12 mètres.
Le dernier cyclone à avoir ravagé l'île remonte à 1983. Augustin s'en souvient.
Ça fait peur. Hein. Il y a la mer qui vient du large et le lago qui commence à monter. L'eau est venue jusque-là.
Jusqu'aux épaules, indique Augustin, à Emmanuel Macron venu inaugurer le chantier d'un abri de survie. Un bâtiment surélevé qui servira d'école et qui, en cas d'intempérie, pourra recueillir presque toute la population de l'atoll, à savoir 600 personnes. D'autres abris seront construits dans l'archipel grâce à un programme cofinancé par l'État et la Polynésie, annonce Emmanuel Macron.
Lorsqu'on parle ici des conséquences du réchauffement climatique et des dérèglements, on parle de vos vies, de la vie de vos enfants. Je sais bien qu'il y a plusieurs décennies qu'on vous promet des abris. Je sais bien qu'il y a même certains ministres qui ont pu mettre des premières pierres à des abris qui n'ont ensuite jamais progressé. Et tout le monde s'est renvoyé la balle.
Une façon de mettre en avant son action alors qu'Emmanuel Macron est critiqué sur son bilan en matière climatique, tout en taclant celle des gouvernements précédents. Mani, Claudia Bertram, Europe 1.
À retenir en bref, une nouvelle candidature à droite pour la primaire des Républicains en vue de la présidentielle. Il s'agit du médecin et maire de la Garenne-Colombes, Philippe Juvin. Les suites diplomatiques de l'affaire Pegasus, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, sera demain à Paris. Il rencontrera son homologue, la ministre Florence Parly, pour évoquer la NSO, société de cybersécurité dont le logiciel est soupçonné d'avoir été utilisé pour espionner Emmanuel Macron. Si vous êtes propriétaire d'une maison secondaire, d'une maison de vacances, eh bien attention à la facture. Plusieurs communes viennent de voter l'augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires. La loi autorise les communes où le marché de l'immobilier est tendu à augmenter cette taxe. Mais voilà, Maud Descamps, dans certaines villes, cette majoration peut aller jusqu'à 60%.
Tout à fait, hein, c'est le cas à Lyon et à Bordeaux où la municipalité vient de voter une augmentation de la taxe d'habitation des résidences secondaires, des villes où il existe un manque de logements. L'objectif est donc de convaincre les propriétaires de remettre leurs biens sur le marché. Audrey Hénoc est adjointe au maire à la mairie de Lyon.
Le premier objectif, c'est vraiment qu'un certain nombre de résidences secondaires, donc on en a environ 15 000, puissent repasser en résidence principale. Parce que pour nous, un logement, c'est avant tout le lieu où habite une famille ou une personne à temps plein.
Grâce à cette hausse, la municipalité devrait empocher 3 300 000 euros de plus par an. Et puis, il y a aussi de plus petites communes comme Saint-Julien-de-Chédon dans le Loir-et-Cher, 750 habitants, qui a augmenté cette taxe. Le maire Michel Leplat espère libérer des logements et faire venir des familles essentielles à la vie du village.
Et ça nous permet d'essayer de sauvegarder notre école. C'est pour ça qu'on a voulu aussi ramener cette équité un peu fiscale en disant, voilà, ben cet effort, tout le monde va le faire pour que la commune puisse continuer à bien vivre, quoi.
Sachez aussi que certains maires se mobilisent pour qu'une nouvelle taxe soit également appliquée aux logements vacants.
Maud Descamps du service économie d'Europe. Allez, je propose une visite pour terminer ce journal. Direction le port de La Rochelle. Cela faisait des mois qu'il était attaqué dans le port de Cannes, immobilisé bien sûr à cause de la crise sanitaire. Le Belém, le plus vieux voilier d'Europe, vient de reprendre la mer. Il fait une première escale à La Rochelle jusqu'à demain. Un trois-mâts du 19e siècle à découvrir. Reportage Laura Taouchanoff.
Bienvenue à bord du Belém, permission accordée.
On embarque à bord d'un immense trois-mâts, autrefois un navire marchand pour transporter du cacao. Roland et Marie-Claire se laissent porter par son histoire.
La boiserie est raffinée.
Dans l'ancien temps, peut-être que ce n'était pas les mêmes conditions que maintenant.
Il faisait beau, bon y vivre. On ne devait pas se rendre compte systématiquement qu'on était sur un bateau, partant calme évidemment.
De leur côté, Paul et Mathis, eux, préfèrent garder les pieds sur terre.
Ça doit être assez spécial la vie dedans. Je suis bien chez moi, petit canapé, j'aime bien mon confort.
J'ai déjà vu Titanic et j'ai pas envie de faire pareil.
Si on veut rencontrer le commandant de bord, il faut descendre dans son salon privé.
C'est une des pièces les plus historiques à bord dans le mobilier, étant donné qu'ici, rien n'a changé depuis 1914.
On s'assoit sur de vieux fauteuils en cuir fixés au sol pour les tempêtes. Un retour en mer très attendu par Aymeric Gibet après des mois à quai à cause de la crise sanitaire.
C'était essentiel pour nous, pour le savoir-faire, pour notre motivation. C'est une chance extraordinaire d'avoir cet outil transgénérationnel qui, sans le BLM ou de quelques autres navires, serait complètement perdu.
Je vous souhaite une excellente visite, mesdames.
Merci.
La Rochelle, Laura Taouchanov, Europe 1.
Voilà, il nous reste à avoir le temps à La Rochelle et ailleurs.
Oui.
Bonjour, bonjour Marlène Duré.
Bonjour Thierry. Bah, à La Rochelle, il fait pas chaud. Hein. 21 degrés en plus, ils se sont retrouvés là sous la grosse zone nuageuse et pluvieuse. On a un gros paquet en ce moment qui circule depuis le centre-est en direction des Hauts-de-France. Et l'évolution cet après-midi, bah, écoutez, au nord d'une ligne, disons, Bordeaux-Dijon jusqu'aux Vosges, donc au nord de cette ligne, bah, le temps va rester nuageux.
Bon.
Voilà, il va pleuvoir par intermittence, avec peut-être même quelques coups de tonnerre vers la Normandie et les côtes de la Manche, où les averses seront plus marquées. Quelques éclaircies reviendront, allez, cet après-midi, dans le Cotentin, en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Sur la moitié sud, là, c'est une alternance de nuages et d'éclaircies. Elles sont parfois belles, d'ailleurs, avec toujours, un petit peu comme hier, un ciel plus chargé sur les Pyrénées et puis les Alpes du Sud, avec ce risque d'averses sur le relief, averses orageuses, donc dans le sud des Alpes, et ça peut déborder, encore une fois, comme hier, jusque dans l'arrière-pays niçois. Et il fera beau, oui, où ça ? En allant vers la vallée du Rhône, dans les départements du Languedoc-Roussillon, puis un petit peu autour aussi, hein, ça déborde. Du côté des températures...
Alors, ça donne quoi ?
Alors, 20 à 26 en général.
D'accord.
Bon, ça baisse à l'ouest, 22 à Nantes, Paris, Nevers et Metz, 26 plutôt du côté de Strasbourg. Ça peut monter jusqu'à 28 dans le Midi toulousain, 29 dans le Lyonnais, en Isère. Et puis, on atteint ou on dépasse les 30 degrés de la vallée du Rhône jusqu'à la Grande Bleue, avec 32 de maximale attendu. Anime et Montélimar.
Et on fait un prochain point dans le journal de 13h. Merci Marlène.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Et mon invité à 1h-10, c'est journaliste au Figaro, auteur de L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes aux éditions Talendier. Bonjour Paul Sugy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Alors vous consacrez votre ouvrage à la question antispéciste. C'est quoi d'abord l'antispécisme ?
Alors l'antispécisme, c'est une idéologie qui concerne la cause animale, qui est en fait une opposition à ce qui serait, selon les militants, le spécisme, c'est-à-dire une discrimination faite en fonction du critère de l'espèce. C'est-à-dire que les antispécistes considèrent que nous avons, nous autres humains, un comportement discriminatoire à l'égard des autres espèces, c'est-à-dire des animaux non humains, parce que nous les considérons comme inférieurs à nous, parce qu'ils sont d'une autre espèce que la nôtre. Donc l'antispécisme entend mettre un terme à la souffrance des animaux, mais plus généralement une forme d'oppression systémique, un peu de la même façon, disent-ils, que l'on a combattu avant le racisme ou le sexisme. Eh bien, c'est une forme de nouveau combat, de libération. Cette fois-ci des animaux.
C'est le mouvement qui est à l'origine du véganisme ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que vous avez un végétarisme ou un véganisme qui a toujours existé. C'est-à-dire que vous avez des penseurs végétariens dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, dans la modernité. Et donc ça a toujours existé pour des raisons très différentes. L'antispécisme, c'est une forme de radicalisation du végétarisme qui cette fois-ci ne dit plus simplement « il est injuste de consommer des animaux » ou « c'est immoral » ou « c'est mauvais pour le climat », etc. Mais qui dit « l'homme a tort de se croire supérieur aux animaux ». Vous voyez, c'est plus qu'un discours sur la viande, c'est un discours qui, selon moi, porte d'abord sur l'homme et qui remet en cause la frontière morale qui sépare l'humain et l'animal.
Vous dites que c'est un discours ancien, on a le sentiment que tout ça est apparu très récemment finalement.
Mais là encore, une fois encore, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, l'antispécisme est apparu il y a une cinquantaine d'années. Donc vraiment, la formalisation de cette idéologie, ça commence avec Peter Singer qui a publié en 1975 La libération animale et qui a ensuite un peu donné le point de départ de ce mouvement qui ensuite maintenant a pris une grande importance dans les pays occidentaux. Mais vous voyez, vous avez par exemple Gandhi qui prononçait déjà des discours au début du siècle sur le végétarisme devant la Vegetarian Society à Londres. Donc en fait, c'est vraiment une radicalisation idéologique qui maintenant connaît un essor considérable, notamment parce que ce combat s'est intellectualisé. Vous avez une fascination pour les élites médiatiques, universitaires, culturelles en général, pour la cause antispéciste et qui lui donne bien sûr un grand rayonnement.
Paul Sugy, quand on regarde de loin le sujet, on peut se dire que c'est une minorité d'activistes, de militants, mais pour vous, c'est un sujet essentiel et à terme qui peut même déstabiliser nos sociétés.
Oui, en fait, vous avez deux façons de regarder l'antispécisme. Soit vous vous concentrez sur les quelques excités qui vont fracasser des vitrines de boucherie ou qui vont se peindre de faux sang devant des abattoirs. Donc là, effectivement, vous avez une minorité d'activistes. généralement pas très convaincants parce que tellement radicaux qu'ils n'en sont pas forcément très sympathiques. Vous voyez, quand vous avez Solveig Allouin qui va sur des plateaux de télévision pour dire que les bouchers aujourd'hui sont les SS du 21e siècle, ouais. C'est pas très convaincant. Mais vous avez à côté d'eux toute une frange beaucoup plus discrète, mais beaucoup plus influente, intellectuelle, de juristes, de politiques aussi, ça commence, des parlementaires, des gens qui sont vraiment amenés à avoir une capacité de prise de décision très importante et qui, eux, sont vraiment intéressés à la question morale que pose l'antispécisme. Ils ne sont pas simplement des manifestants ou des militants, mais des gens qui veulent proposer un nouveau regard sur l'homme, un nouveau regard sur l'animal. Et je crois, effectivement, qu'ils ne peuvent que, dans les années à venir, prendre de l'importance parce qu'ils flattent certaines des valeurs que notre époque, aujourd'hui, auxquelles on voue un culte. Vous voyez, la bienveillance, le bien-être, la prise en compte des intérêts moraux, c'est des choses qu'on adore. Et surtout, se fixer comme objectif un nouveau combat de libération, c'est très valorisant.
Alors, vous racontez une anecdote dans votre ouvrage. Lorsque vous étiez à l'école normale supérieure, les menus végétaliens étaient pris d'assaut et non les grillades. On peut imaginer que c'est aujourd'hui le cas dans toutes les grandes écoles. Et cela veut dire finalement que demain, les élites intellectuelles, dirigeantes de notre pays seront sensibilisées à cela et que c'est une question qui deviendra prioritaire.
Oui, moi, c'est de ma très modeste expérience, c'est ce que j'ai vu. Effectivement, il y a une passion pour la question antispéciste dans des écoles élitistes, donc qui forment des gens qui sont généralement très cultivés, qui ont beaucoup lu. Et de fait, il y a une littérature abondante autour de la question. Et ce que je vois aussi, c'est que sociologiquement, la question antispéciste est considérée d'abord par des personnes qui ont effectivement souvent un fort capital culturel. Et donc, c'est d'abord un combat porté par les élites. Mais on le sait bien, beaucoup de renouvellement idéologique dans une société arrive justement d'abord par les élites. Et il ne faudra pas forcément demain qu'ils soient majoritaires. Il suffit par exemple qu'ils aient suffisamment d'influence pour prendre des décisions importantes au Parlement, pour faire interdire d'abord un certain nombre de pratiques. Hein, évidemment, on sait bien ce qu'il y a dans le viseur, c'est-à-dire certaines pratiques de chasse, bien sûr la corrida, bien sûr certaines pratiques d'élevage. Et en fait, à terme, je crois que leur but est, par l'évolution du droit, de faire évoluer les mentalités. C'est-à-dire que demain, lorsque nous n'aurons plus le droit de faire ceci ou cela à l'égard des animaux, que telle ou telle pratique commerciale ou agricole seront interdites, eh bien en fait, nous serons par la force des choses obligés de considérer les animaux, si ce n'est comme nos égaux, du moins comme nos semblables, c'est-à-dire partageant un certain nombre de caractéristiques communes avec l'homme. Et c'est ce que j'appelle une forme d'abolition, au fond, de la frontière symbolique entre le vivant humain et non humain.
Et ça peut changer par le droit, mais également par la politique. On a vu le score du parti animaliste aux élections européennes de 2019, plus de 2%. Ça a été une surprise. Est-ce que c'est regardé de près par la classe politique?
Bien sûr. Je me souviens que Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, avait recommandé à son gouvernement de s'afficher régulièrement avec des animaux sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il l'avait fait. On avait vu des photos de Bruno Le Maire, des photos de... Bon, je sais plus qui s'affichait avec leur chat, leur chien. Marine Le Pen aussi, je crois, a passé un diplôme d'éleveuse de chats, vous voyez. Donc en fait, toute la classe politique sait que la question animale est un ressort politique important. Et on a vu notamment aux dernières municipales, alors d'abord des candidats animalistes être élus, mais au-delà de ça, la plupart des partis, et pas seulement les écologistes ou les animalistes, ont nommé des délégués municipaux au bien-être animal. Ouais. Et vous voyez, par exemple, là, il y a une décision importante qui a été prise à Paris d'annulation de l'autorisation de tuer les pauvres petits lapins qui prolifèrent sur la pelouse des Invalides et qui grignotent les tuyaux d'arrosage. Vous voyez, ça montre qu'au niveau des villes, des collectivités locales en général, on est en train de changer progressivement de regard sur l'animal. Et pour moi, ça dénote parfois d'une grande confusion. C'est-à-dire qu'encore une fois, je ne suis pas un sauvage, je ne prône pas l'extermination de toutes les espèces animales. Il y a des combats importants à mener. Il y a un certain nombre de pratiques qui sont détestables, par exemple dans l'élevage, quand on n'a pas forcément des conditions d'hygiène ou de sécurité pour les animaux qui sont nécessaires dans les abattoirs, etc. Mais vous voyez, ce que je crois, c'est que ce débat-là ne pose pas la seule vraie question fondamentale, qui est de savoir, au fond, qu'est-ce que l'homme ? Quelle est la différence entre l'homme et l'animal ? Et au nom de quoi est-ce que nous avons éventuellement raison de nous considérer comme supérieurs aux animaux ?
Et juste pour poursuivre sur la question politique, vous racontez d'ailleurs dans votre ouvrage que ce score dont on parlait aux dernières européennes, ce score assez haut a été regardé de près par l'extrême gauche. Il y a l'idée finalement que pour une certaine gauche, l'animal est un nouveau prolétaire ?
Oui, c'est l'expression que j'emprunte à Émeric Caron qui disait « la cause animale, ce sera le marxisme du XXIe siècle ». On retrouve certaines similitudes. Vous voyez cette idée effectivement qu'il y a une classe opprimée, silencieuse, qui doit être défendue, mais aussi l'idée un peu plus subtile qui est souvent reprise aujourd'hui par la gauche progressiste, que l'ensemble de nos édifications intellectuelles, culturelles, c'est en fait ce qui fait notre civilisation, c'est construit malgré ou sur le dos des opprimés. C'est-à-dire qu'au fond, les antispécistes veulent, un peu comme la cancel culture aujourd'hui, remettre en question même notre langage, parce que le vocabulaire est infériorisant pour l'animal. Souvent, quand je veux vous insulter, je veux utiliser un nom d'animal. Vous voyez, ça montre bien, selon eux, que la littérature, les arts, la culture en général, invisibilise l'animal, lui donne un statut inférieur. Donc pour eux, il s'agit un peu comme le marxisme, d'ébranler ce qu'on pourrait appeler la superstructure, ouais, toute notre vision de l'animal.
Paul Sujet, pour terminer, est-ce que ce courant d'idées ne permettrait pas aussi de remettre en question notre rapport finalement aux animaux, notre réflexion sur l'élevage intensif, les animaux élevés en batterie, etc. Est-ce que finalement, il n'y a pas une prise de conscience également de ce qui a été fait et parfois mal fait?
Oui, mais sauf que vous voyez, la cause animale n'a pas attendu l'antispécisme. Par exemple, les premières SPA ont été créées un siècle plus tôt. Et donc, il y a évidemment un progrès moral en cours sur la question animale. Moi, je crois que l'antispécisme, en radicalisant le débat, en fait, quelque part, le perturbe. Parce que du coup, ça suppose une forme de défense chez les éleveurs, chez les chasseurs, qui sentent bien que parfois, ils sont menacés dans leur pratique. Et donc, vous voyez, ça hystérise complètement le débat. Et je crois que vraiment, on pose très, très mal la question. Ouais. Alors qu'il ne faudrait pas simplement se demander si les animaux ont des droits, ce que je ne crois pas qu'ils en aient. Et je ne crois pas qu'ils soient des personnes au sens où on le donne pour un humain. Mais je crois que les humains ont des devoirs à l'égard des animaux, vous voyez. Et cette façon de poser le débat me paraît plus intelligente parce que si on a des devoirs, alors effectivement, on peut se demander intelligemment, tout en gardant l'idée qu'on est supérieur aux animaux, bien qu'on a un certain nombre de prérogatives à respecter dans la façon dont on les traite. C'est tout autre chose.
Votre livre « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécismes », c'est aux éditions Talendier. Merci à vous, Paul Sujet.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de 13h, puis le Club Tokyo. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Une deuxième médaille d'or.
Eh oui, Clarisse Agbenienou, on l'attendait, hein, la porte-drapeau en judo. Elle l'avait promis, elle ne visait que l'or. Eh bien, elle le ramène, on l'entendra. Et puis, on va en parler aussi avec une ancienne médaillée olympique de judo. Beau programme encore.
On vous retrouve tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Bon après-midi à tous sur Europe 1. On se retrouve bien sûr à 18h.